Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le gouvernement français prévoit de diminuer de 7000 le nombre de places d'hébergement d'urgence, un choix qualifié d'insensé par le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Pascal Brice sera l'un de nos invités. Il reviendra aussi sur la situation des enfants sans abri en France. Il tentait de rejoindre l'Europe par la mer Méditerranée. 194 candidats à l'exil ont été arrêtés le week-end dernier par la marine tunisienne. Il a lancé une alerte sur le racket exercé selon lui par les fournisseurs d'énergie sur les collectivités locales. L'invité de Pluriel hier soir était Zartocht Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Nous l'écouterons. La pénurie de carburant en France, la grève est reconduite sur de nombreux sites. Le gouvernement entend réquisitionner des personnels indispensables au fonctionnement de la raffinerie de Seine-Maritime. Le projet de budget prévoit de diminuer de 7000 le nombre de places d'hébergement d'urgence en 2023, autant qu'en 2022. Un choix vivement dénoncé par le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, qui a tiré la sonnette d'alarme le mois dernier sur le nombre important d'enfants qui vivent dans des hébergements d'urgence, des abris de fortune ou dans la rue. Aujourd'hui, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité regrette de ne pas avoir été écouté. Rien n'a été fait depuis cette alerte, nous dit Pascal Brice, entretien avec le président de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Nous sommes dans une situation, il y a toujours plus d'un millier d'enfants dans les rues de ce pays. Et depuis l'alerte à laquelle nous avons procédé avec l'UNICEF à la rentrée, début septembre, je vois bien qu'il y a une oreille attentive de la part des ministres, mais rien n'est fait. Donc on est toujours dans la même situation, donc nous continuons à alerter. Et ce d'autant plus que vous savez sans doute que s'ouvre la discussion du budget de l'État pour 2023, où le gouvernement pour l'instant prévoit de réduire le nombre des places d'hébergement d'urgence. Donc c'est évidemment pour nous insensé, et donc nous souhaitons que la discussion parlementaire puisse faire en sorte que les moyens soient là, notamment pour évidemment et d'abord pour accueillir ces enfants.
Lorsque vous dites que certains ministres sont attentifs à cette situation, cela se traduit comment ?
Écoutez, par une écoute, c'est-à-dire que lorsque nous en discutons avec le ministre des Solidarités, avec le ministre du Logement, il y a évidemment une écoute sur ces situations-là, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse.
Cela concerne combien d'enfants aujourd'hui qui vivent dans des hébergements d'urgence, des abris de fortune ou dans la rue ?
Dans la rue ou dans des campements, plus de 1000 enfants près de 30 000 si on prend en compte les hôtels, qui sont ces hôtels de fortune, comme vous le savez, où les familles sont parfois hébergées dans l'urgence et qui sont vraiment des pis-aller, et notamment du point de vue de l'accompagnement social et tout particulièrement pour les enfants.
Ces enfants sont-ils scolarisés pour la plupart d'entre eux ?
Beaucoup le sont, mais nous devinons que d'autres ne le sont pas. Et donc c'est évidemment une extrême difficulté. Et pour celles et ceux de ces enfants qui sont scolarisés, vous imaginez bien combien il y a là une difficulté immense pour ces jeunes à suivre une scolarité, alors qu'avant et après les cours, on est dans la rue ou dans des campements avec ses parents.
Il y a également des mineurs isolés parmi ces jeunes personnes ?
Écoutez, oui, il y a des mineurs isolés, alors qui sont le plus souvent pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais il y a également effectivement des mineurs isolés parmi ces enfants et ces jeunes.
C'est une situation qui a un impact notamment sur la santé mentale des enfants, comme le souligne d'ailleurs la présidente de l'UNICEF France.
Naturellement, ce sont des enfants qui déjà sont confrontés à tout ce que la violence et les campements comportent quotidiennement. Ce sont des enfants qui sont déstabilisés, ce sont des enfants qui ont des situations de santé physiologique ou mentale très fragiles, qui encore une fois vont à l'école quand ils y vont, quand ils peuvent y aller, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Donc oui, ce sont des enfants très fragilisés au plan de la santé mentale. Et là, il y a évidemment aussi une action à mener.
Et lorsque l'on vous écoute, l'on comprend que cela concerne plusieurs ministères. Est-ce qu'il faudrait une forme de transversalité pour combattre cette situation ?
Oui, bien sûr, mais c'est potentiellement le cas. C'est déjà le cas pour beaucoup d'enfants dans ce pays qui sont pris en charge par nos associations avec des financements de l'État ou des collectivités locales. Mais là, nous avons vraiment besoin d'un sursaut. Je redis qu'au moment où le gouvernement s'apprête à réduire le nombre des places d'hébergement d'urgence dans le pays, il y a quelque chose qui suscite l'incompréhension. C'est évidemment l'inverse qu'il faut faire. Et donc, il y a cette mobilisation des uns et des autres pour sortir ces enfants de la rue.
Il y a combien aujourd'hui de places d'hébergement d'urgence en France ?
194 000. Nous avions atteint un pic historique en sortie de crise sanitaire du Covid avec 200 000 places. Nous nous étions réjouis, c'était en 2021, que le gouvernement cesse une politique qu'on qualifie souvent de gestion au thermomètre, c'est-à-dire on ouvre et puis on ferme et puis on ouvre lorsqu'il fait très froid ou très chaud. En 2021, le gouvernement, c'était un acquis du premier quinquennat de M. Macron, avait mis un terme à cette politique en maintenant 200 000 places. Et puis là, on recommence, comme avant, cette politique qui ne donne aucune prévisibilité à qui que ce soit, qui coûte en fait plus cher aux finances publiques, avec à nouveau une réduction prévue de 185 000 places. Alors même, on se le redit, hein, il y a encore des gens à la rue, plusieurs milliers, notamment des enfants.
Comment pouvez-vous comprendre cette situation ?
Je n'ai pas à la comprendre, elle est incompréhensible. Donc il faut maintenant se donner les moyens. C'est compliqué, c'est difficile, nos associations le savent, les bénévoles, les travailleurs sociaux, aller chercher ses familles, ses enfants, les prendre en charge, c'est compliqué. Mais que l'on fasse en sorte que pour le reste, tout soit facilité en termes de moyens et de capacités d'action.
Et estimez-vous que l'opinion est aujourd'hui suffisamment sensibilisée à ce qui se passe aujourd'hui en France ?
Je pense que vous y contribuez, que beaucoup y contribué et que cette réalité apparaît de plus en plus. Nous allons continuer à la faire apparaître au grand jour.
Et vous saluez le rôle de l'ensemble des associations, vous qui présidez la Fédération des acteurs de la solidarité.
Absolument. Très mobilisés partout dans le pays, à la fois des bénévoles, des intervenants sociaux. C'est évidemment pour nous une priorité.
Une personne qui est dans cette situation, un enfant ou un adulte, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller de faire ? Quels sont les différents leviers ?
C'est avec les familles que se fait le travail, hein, sauf lorsqu'il s'agit de mineurs isolés, où là il s'agit de mobiliser l'aide sociale à l'enfance. C'est à travers les familles que se fait l'accompagnement, d'abord évidemment la scolarisation, la prise en charge sur le plan de la santé, tout ce qui peut être fait lorsque c'est possible pour un hébergement dans des conditions dignes. Voilà, c'est l'ensemble des éléments qui sont mis en place, mais évidemment dans un travail avec les familles, hein, quand ce sont des enfants qui sont avec leur famille.
Et êtes-vous favorable à une régularisation également des personnes sans papier logées par le 115 ? C'est aussi un élément important.
Alors oui, ce que nous prenons, c'est de faire en sorte... Moi, vous savez, partout où je vais dans les associations adhérentes de la FAS, partout en France, je vois des personnes étrangères qui sont sans papier alors que soit elles travaillent, soit elles pourraient travailler aisément. Vous voyez, par exemple, là, les Jeux Olympiques en région parisienne, il y a des besoins d'emploi. Partout dans les entreprises, il y a des besoins d'emploi. Je vois sans arrêt des boulangers qui cherchent du monde dans la restauration. Et on a des gens qui pourraient travailler. Donc, celles-ci et ceux-là, après un examen individuel, oui, je pense qu'elles devraient pouvoir avoir accès à un droit au séjour. Il ne s'agit pas d'une régularisation massive et générale, mais il s'agit de faire en sorte que des personnes qui sont plongées dans la précarité parce que, en réalité, on leur dénie un droit au séjour et un droit au travail, qu'elles puissent travailler et ne plus avoir à être notamment dans nos structures.
Et vous souhaitez que ce sujet soit discuté dans le cadre de la future loi immigration annoncée récemment par Emmanuel Macron ?
Oui, je pense que c'est un élément prioritaire au vu de la situation des personnes qui est indigne, au vu des besoins dans les entreprises. Il me paraît évident que de manière encadrée, transparente, on puisse faire en sorte que toute une série de gens qui sont aujourd'hui dans la précarité puissent avoir un droit au séjour et travailler.
Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice. Il tentait de rejoindre l'Europe par la mer Méditerranée. 194 candidats à l'exil ont été arrêtés par la marine tunisienne le week-end dernier, cela dans le cadre de 9 opérations différentes. Parmi ces personnes figuraient 118 Tunisiens et 76 personnes originaires d'Afrique d'Afrique subsaharienne. Dimanche dernier, 8 corps avaient été repêchés au large de Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie, des personnes qui avaient pris la mer le 21 septembre dernier, avec 9 autres passagers, dont 2 femmes et un bébé, dans une embarcation très vite signalée comme disparue. Le Parlement irakien tiendra demain une séance consacrée à l'élection du président de la République. Il s'agira d'une première étape indispensable pour former un nouveau gouvernement et mettre fin à l'impasse politique. Selon le système de partage du pouvoir en Irak établi depuis 2003, la présidence doit être réservée aux Kurdes, le poste de président du Parlement aux sunnites et le poste de premier ministre aux chiites. La commissaire européenne à l'énergie plaide pour un partenariat stratégique de long terme avec l'Algérie. Un vœu formulé depuis Alger. L'Algérie est un fournisseur de gaz important et fiable pour l'Europe. La relation avec la Russie, jusqu'à présent le plus grand fournisseur de gaz de l'Union européenne, a été rompue de manière irréversible. Nous nous tournons vers des fournisseurs de confiance pour combler le vide, selon les mots de la commissaire européenne, des propos lors d'un forum Algérie-Union européenne sur l'énergie. L'Ukraine a reçu son premier système de défense anti-aérienne livré par l'Allemagne. Une annonce du ministre ukrainien de la Défense. Il évoque le début d'une nouvelle ère de la défense aérienne. Il y a, dit-il, un impératif moral de protéger le ciel ukrainien pour sauver notre peuple. La pénurie de carburant en France face à la reprise de la grève. Le gouvernement a annoncé le lancement de la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt d'ExxonMobil à Port-Jérôme. La CGT va contester cette décision en justice. Une décision prise quelques heures après que les grévistes ont annoncé la poursuite du mouvement social. L'invité de Pluriel hier soir était Zartosht Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Il y a quelques jours, il a lancé une alerte sur le racket exercé, selon lui, par les fournisseurs d'énergie sur les collectivités locales. Il a créé le collectif Stop Racket Énergie. Des villes comme la sienne risquent la faillite, dit-il, en raison de la hausse des factures. Extrait de cette émission.
La situation est vraiment catastrophique et je pense qu'elle est partagée par de très nombreuses communes en France qui, d'ailleurs, ont, pour certains maires, nous ont déjà contactés. En fait, on a, nous, un contrat de fourniture d'énergie qui arrive à terme au 31 octobre, donc dans moins d'un mois. On a, depuis plusieurs mois, demandé aux différents fournisseurs privés d'énergie de nous faire des propositions, sauf que personne ne voulait répondre à notre appel d'offres. Et donc on est retourné vers les différents fournisseurs en leur demandant les nouveaux tarifs. Et c'est là où on a découvert le système catastrophique qui a été mis en place pour nos collectivités hein, par les fournisseurs d'énergie, puisqu'on passe de 15 euros du mégawatt-heure pour le gaz à 240 euros sur les nouvelles propositions. Donc c'est une multiplication par 16 du tarif. Et on passerait de 65 euros du mégawatt-heure pour l'électricité à 2068, donc une multiplication du prix par 32. Ça a des conséquences dramatiques pour les collectivités, parce qu'évidemment, nous n'avons pas le budget pour financer une telle augmentation au global. Et pour la ville de Neuilly-sur-Marne, on passerait d'une facture au total sur toute la ville d'à peu près 2 millions d'euros à 10, voire 15 millions d'euros, rien que pour payer les factures d'électricité et de gaz. Donc, et en plus, nous, on a une facture qui est très importante, mais qui aurait pu être bien pire. En réalité, on a un airbag parce qu'on a la géothermie. Donc, on a un moyen de production d'énergie sur la ville qui couvre la moitié des équipements. Sinon, en réalité, on serait passé de 2 millions à 20, 25 millions d'euros, ce qui est absolument inacceptable pour les villes.
Alors, votre appel a-t-il été entendu par les fournisseurs d'énergie, mais aussi par le gouvernement ?
Alors, pour le moment, on attend de voir. En tout cas, on a été entendu par les autres élus. De très nombreux élus nous ont contactés, soutiennent, que ce soit des parlementaires ou des maires de toute la France. Et donc, je remercie vraiment tous les maires et j'encourage encore tous les maires à nous rejoindre. On a été entendu par la population aussi parce qu'on a, en quelques jours, en à peine une semaine, on a réuni 45 000 signatures, ce qui est considérable, sur notre plateforme, sur la pétition et notamment qui est disponible sur la plateforme stopracketenergie.fr. Mais au-delà de ça, donc j'ai entendu Madame Borne, la Première ministre, dire au Sénat que nous ne laisserons aucune collectivité dans l'impasse. En réalité, pour le moment, nous n'avons aucune mesure concrète qui nous a été annoncée. Et le filet de sécurité qui a été présenté par Gabriel Attal est très en deçà de la réalité. Enfin, ce qui est proposé par le gouvernement, ce serait un filet de sauvetage de 600 millions d'euros. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, rien que pour la ville de Neuilly-sur-Marne, il manquerait 10 à 12 millions d'euros. Donc en réalité, on n'est pas du tout dans la bonne mesure. Et moi, ce que je demande, c'est qu'en réalité, les efforts soient partagés, qu'on ait un partage entre les fournisseurs d'énergie privés qui font des énormes bénéfices en raison de la crise actuelle et qu'on ne fasse pas supporter tous les efforts donc de sobriété et autres aux seuls habitants. Je demande à ce que ces grandes entreprises, ces fournisseurs privés de l'énergie contribuent, payent, et notamment pour les collectivités, pour les villes et pour les entreprises et les citoyens qui sont en difficulté.
Donc c'est un véritable bras de fer actuellement. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez gagner ce bras de fer ?
J'espère être entendu. En tout cas, on a de bons espoirs là-dessus, mais il faut continuer la mobilisation. Aujourd'hui, j'ai conscience du fait qu'il y a vraiment une inquiétude qui est partagée partout en France sur ce sujet-là. Il faut quand même se dire une chose. Les villes, on est là, nous, à la tête de différentes villes dans toute la France, on est là pour gérer des services publics. Quand les villes sont en difficulté, ce sont les écoles qui ne seront pas chauffées. Ce seront les gymnases qui ne seront pas chauffés. Dans les gymnases, on ne mettra pas d'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de douche chaude. Enfin, les gens devront prendre des douches chez eux. Les illuminations de Noël, on les réduit de 90% à Neuilly-sur-Marne. Les événements qui étaient prévus, on les a annulés pour une bonne partie. Donc en fait, quand on va avoir les conséquences très concrètes dans la vie des Français, je pense qu'effectivement, il y aura un regain d'intérêt de tout le monde. Moi, j'alerte sur la situation et j'espère effectivement que nous ferons avancer le sujet, que toutes les villes seront entendues par le gouvernement et qu'on aura des mesures spécifiques d'aide pour passer ce cap qui est extrêmement inquiétant.
Zartosht Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, il était l'invité de Pluriel hier soir. Ce soir, à 19h et 23h, Loïc Barrière recevra Brice Gaillard, premier secrétaire fédéral socialiste des Hauts-de-Seine. Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est précisément midi 17. À midi 30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.